France Inter. Marion Lourd. Le téléphone sonne.
On est les champions. Mais non, je ne vous parle pas des Jeux Olympiques, même si on se débrouille pas si mal. Hein. Non, non, nous les Français, nous sommes les champions d'Europe des résidences secondaires, figurez-vous. Plus de 3 millions en tout, presque 10% du parc immobilier. Bon, en revanche, nous ne sommes pas vraiment les champions du logement. Une grande majorité d'élus estiment même qu'il existe une crise du logement en France. Dans les grandes villes et celles du bord de mer, y aurait-il trop de monde sur le marché? Pas assez de place pour loger les locaux et les vacanciers sans faire flamber les prix de l'immobilier? C'est ce que disent certains maires. Et si vous êtes l'heureux propriétaire d'un appartement secondaire ou d'une maison à Nice, à Anglette, à Lyon ou à Bordeaux par exemple, vous avez vu ou vous allez voir votre majoration de taxes d'habitation bondir jusqu'à 60%. Ça fait mal au porte-monnaie. Façon de résoudre partiellement cette crise du logement ou de renflouer les caisses des mairies. On en parle ce soir au Téléphone Sonne, c'est votre émission. Bienvenue sur France Inter.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Et on commence cette émission avec Pascal qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Pascal.
Bonsoir à tous.
Bienvenue sur France Inter.
Soyons brefs.
Allons-y.
La surtaxation du fric pour les communes ou une pseudo-politique sociale à l'approche des élections de 2022.
Merci pour votre question très directe, Pascal. Pour vous répondre ce soir, trois invités à distance. Caroline Blondy, professeure de géographie et spécialiste du tourisme à l'Université de La Rochelle. Bonsoir.
Bonsoir.
Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on attend aussi Audrey Hénoch, première adjointe à la ville de Lyon en charge des finances. On va voir si elle nous rejoint un peu plus tard dans cette émission. C'est dommage parce que Pascal nous appelle de Lyon justement. On va peut-être commencer du coup par Philippe Laurent à l'Association des maires de France. Est-ce que effectivement cette surtaxation c'est vraiment une façon de libérer des logements pour les personnes qui n'en ont pas dans les communes, ou est-ce que c'est une façon de faire de l'argent ou même de faire une fausse politique sociale?
Bon, écoutez, je crois qu'il faut qu'on soit clair. C'est pas cette majoration, même si elle fait en effet un peu mal au portefeuille, qui va faire en sorte que les gens vont vendre massivement leur résidence secondaire pour permettre aux locaux de pouvoir y habiter. Ça, nous ne le pensons pas. En réalité, ce qui se passe, c'est que les communes, comme vous le savez, ont vu la disparition de la taxe d'habitation.
Elle disparaît petit à petit en ce moment.
Ouais, elle a disparu pour les communes. Ce que paient cette année les gens en matière de taxes d'habitation sur les résidences principales, elle le paie à l'État. Hein, les communes ne perçoivent
pour les communes,
rien.
Oui.
Voilà. Donc nous n'avons plus que le foncier bâti comme recette. Et évidemment, cette surtaxation de résidences secondaires, finalement, c'est une des toutes petites marges de manœuvre que peuvent avoir les communes. Alors les communes touristiques, évidemment, c'est plus important. Pour les communes qui ne sont pas touristiques, il y a assez peu de résidences secondaires et ça ne joue pas beaucoup. Alors évidemment, la difficulté, c'est de pouvoir gérer l'équilibre qui doit exister entre la capacité d'accueillir ces résidences secondaires, qui sont aussi des consommateurs et qui font travailler l'économie locale, mais aussi de pouvoir loger des gens qui, justement, travaillent au service de ces résidences secondaires dans les commerces, les restaurants, etc., etc. Et donc ça, c'est une difficulté qu'ont les maires des communes touristiques. Il faut qu'ils aient une politique d'urbanisme qui permette de marier les deux, c'est-à-dire à la fois pouvoir construire des logements pour les habitants locaux, pour les originaires de ces communes et pour ceux qui y travaillent, et puis en même temps pouvoir continuer à accueillir des résidences secondaires, parce que ils sont aussi une source de travail, une source d'emploi.
Donc vous n'avez pas vraiment répondu à Pascal. Est-ce que c'est vraiment une mesure sociale entre guillemets? Est-ce que c'est une politique de façade? Qu'est-ce que c'est cette taxe?
Cette taxe, on dit que c'est pour en fait favoriser le logement des habitants locaux, mais en réalité, c'est très peu le cas. En fait, c'est bien une surtaxation qui permet d'augmenter un peu les recettes des communes qui, par ailleurs, sont plutôt en berne ces derniers temps.
Audrey Hénoch, vous nous avez rejointe, première adjointe vous êtes première adjointe à la ville de Lyon, vous êtes notre troisième invitée, vous n'avez pas entendu la question de Pascal, vous avez peut-être entendu la réponse de Philippe Laurent à l'Association des maires de France. Pascal nous demandait si cette mesure, cette surtaxation qui a notamment été mise en place à Lyon sur les résidences secondaires, c'était une mesure de politique sociale, une façon de libérer les logements, ou une mesure de façade, ou encore une façon de remplir les caisses
Merci de la question. Excusez-moi pour le retard, j'ai eu un petit problème de connexion.
Pas de problème, bonsoir, merci de nous avoir rejoints.
Pour la municipalité de Lyon, l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, c'est avant tout une mesure sociale, puisque sur Lyon, c'est devenu extrêmement difficile de se loger.
Oui, mais Philippe Laurent, le secrétaire général de l'AMF, dit que c'est pas très efficace et que ça libère finalement pas tant de logements que ça.
Ben, pour nous, c'est toujours un nombre de logements important. On a vu que la ville de Paris, quand elle est passée au même niveau de taxation que la ville de Lyon vient de le faire, elle a pu avoir 5% des résidences secondaires qui repassaient en logements principaux. Donc pour nous, 5% de 15 800 résidences secondaires, c'est toujours environ 800 logements. Donc c'est toujours 800 logements de plus pour notamment des travailleurs précaires, des étudiants, voire des familles qui ont du mal à se loger.
Mais est-ce qu'ils vont être systématiquement libérés? Pas forcément.
Alors pas forcément. Et justement, s'ils sont pas libérés, par contre, bah, en effet, ce sera une augmentation d'impôts pour les propriétaires de résidences secondaires qui nous permettra de financer notre politique de construction de logements sociaux ou d'autres services publics.
Vous vous êtes donné une clause de revoyure en vous disant, bon, on va voir comment ça marche dans un an, dans deux ans, et puis voir si on continue ?
Pas véritablement, parce que dans tous les cas, c'est une mesure qui est gagnant-gagnant pour les Lyonnais. Soit des logements sont remis en résidence principale, et donc comme je disais, c'est toujours autant de logements pour des personnes qui cherchent un logement à l'année, soit c'est uniquement une croissance des recettes, hein, comme le disait votre intervenant, qui nous apportera environ 3 millions d'euros de plus par an.
Caroline Blondy, vous êtes professeure de géographie. La problématique de cette surtaxation, c'est pas tout à fait la même pour les grandes communes comme la ville de Lyon, par exemple, dont on parlait à l'instant, et les communes du littoral ou les communes de montagne. C'est pas tout à fait la même chose.
Alors, avant de vous répondre, d'abord, je crois qu'il faut peut-être préciser que, effectivement, je suis assez d'accord. Je suis pas sûre que ça va avoir un effet aussi important que ça peut être, enfin, qu'on peut l'attendre, parce qu'effectivement, je pense que il faut pas oublier quand même que la majorité des profils des propriétaires de résidences secondaires, surtout quand ils ont des biens d'une certaine valeur dans un certain nombre de grandes villes de France, cette taxe n'est pas forcément un handicap majeur dans la pérennité ou dans la conservation de ce bien.
C'est pas 200 euros qui vont les
tout à fait. Donc ça c'est la première chose. Et puis après je pense que là c'est la géographe qui parle. Je pense qu'il faut aussi faire attention à la localisation de cette résidence secondaire par rapport aux besoins en termes de logement des populations permanentes. Et les besoins sont pas forcément les mêmes en termes de localisation. Donc là aussi je pense qu'il faut prendre le problème de manière plus globale. Et puis aussi, il faut voir quelle est la finalité aussi de cette résidence secondaire. Parce qu'en fait, une résidence secondaire, dans les études qu'on a pu mener, notamment nous en Charente-Maritime, on s'aperçoit que la résidence secondaire, elle peut avoir une fonction très différente selon les profils de propriétaires de résidences secondaires. Ça peut être un lieu de loisirs, un lieu de retrouvailles familiales, ça peut être aussi un investissement financier. Et donc, on voit bien que là, cette question de la taxation ne va pas se poser de la même façon. Quand c'est un lieu où il y a véritablement un attachement très fort sur plusieurs générations, c'est pas l'augmentation de la taxe d'habitation qui va changer les choses, ce qui sera peut-être pas forcément la même chose quand au contraire on est dans une dynamique d'investissement où on va chercher effectivement la rentabilité. Donc je crois que ça c'est un problème qu'il faut regarder de manière à la fois voir à la fois socialement et également aussi voir quelque part culturellement qu'est-ce qu'il y a derrière cette résidence secondaire en termes d'exploitation du bien.
Audrey Hénoc, première adjointe au maire de Lyon, vous vouliez réagir à ce que disait Caroline Blondy ?
Oui, merci, parce que c'est vrai que la problématique d'une grande ville comme Lyon, c'est quand même la difficulté de l'hypercentre qui est très dense et où on se rend compte qu'on a environ 10% des résidences secondaires qui sont louées de manière saisonnière plus de 120 jours par an. Et donc là, on a clairement des investisseurs qui font le choix d'acheter un logement qui loue de manière saisonnière puisque ça a un revenu beaucoup plus important que de la location annuelle. Et donc c'est essentiellement contre ces investissements-là qu'on essaie également de lutter. C'est une vision très, très globale qu'on met en place.
On pense à Abritel, Airbnb, etc.
Exactement. Surtout, en effet, quand on est sur la location à plus de 120 jours par an, donc c'est-à-dire plus d'un jour sur trois. Donc, c'est des personnes qui dédient essentiellement leur logement à la résidence, à la location saisonnière, pardon. Par contre, évidemment, les personnes qui habitent un logement et qui de temps en temps le mettent en location saisonnière, on n'a rien évidemment contre cette pratique, qui offre aux touristes de nouvelles manières de venir découvrir une ville et qui font en effet vivre l'activité de la ville en parallèle de toute l'offre hôtelière qu'on peut avoir dans une grande ville.
Mmh. Sophie nous appelle du Finistère. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci.
Alors vous aviez un témoignage.
Oui, moi je suis enseignante et directrice d'école dans une petite commune du littoral. Et en fait, une commune où presque la moitié des logements sont des logements de résidence secondaire. Les prix ont explosé, ce qui fait que les locaux ici, les familles ne peuvent pas, ne peuvent plus acheter tout simplement, parce que c'est en dehors des prix qui sont en correspondance avec les salaires qui sont ici. Donc c'est tous les logements qui sont mis en vente sont achetés en résidence secondaire, bien souvent par des gens venus de villes un peu plus aisées que chez nous. Mmh. Et on se retrouve avec, du coup, c'est pas des familles qui vivent là, c'est pas des familles qui envoient leurs enfants ici à l'école. Et à côté de ça, je vais parler d'école parce que c'est ce que je connais le mieux, mais en tout cas, les écoles ici perdent des classes.
Mmh. Vous savez, Sophie, si dans votre commune, il y a une surtaxation justement sur les résidences secondaires ou pas ?
Non, je ne crois pas.
Mmh. Donc, est-ce que c'est une mesure à laquelle vous seriez favorable ?
Je suis partagée parce que j'entendais ce que disait je n'ai pas retenu son nom, mais la géographe sur
Caroline
les logements Blondie. Avec un investissement sentimental. Et effectivement, ici, il y a ça aussi. Hein, c'est beau. Il y en a certaines, mais en tout cas, les nouvelles résidences qui sont mises en vente et qui ne sont pas achetées par des locaux, elles sont, c'est pas des gens qui ont un attachement à la région. Ils viennent ici pour profiter de la beauté du lieu et on a la chance de nous l'avoir au quotidien. Mmh. Mais ça a des conséquences fortes, en tout cas, sur les activités locales, c'est clair.
Mmh. Merci Sophie. Philippe Laurent, peut-être, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de communes comme celle de Sophie qui ont ce problème de devenir, j'exagère en disant ça, peut-être presque des villes fantômes à l'année parce qu'il y a trop de résidences secondaires?
Ah oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est tout à fait le cas. C'est le cas notamment sur le littoral, parce que de toute façon, en plus, la constructibilité est maintenant très, très limitée hein, pour les communes du littoral, quelles qu'elles soient. Donc, je pense qu'en effet, c'est un vrai sujet. Je crois qu'en effet, il faut bien distinguer ce qui se passe dans les grandes villes et ce qui se passe dans les communes touristiques. Dans les communes touristiques, c'est-à-dire qui accueillent des résidences secondaires qui sont en effet parfois des maisons de famille de longue date. Je crois que la seule solution, en réalité, c'est une solution globale qui prenne en compte, qui soit une solution d'urbanisme, hein, d'aménagement du territoire, de la commune ou de l'intercommunalité, et qui permette de construire des logements destinés donc aux habitants, aux permanents locaux. Je pense qu'en plus avec le télétravail, il y a aussi quelque chose à faire de ce point de vue-là, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être en résidence principale en ville et qui ont une résidence secondaire dans des villes touristiques, qui vont certainement faire le choix de venir en résidence principale dans ces communes dites touristiques. Donc il peut y avoir un rééquilibrage avec l'augmentation du télétravail. Mais je pense que vraiment, le vrai dilemme des maires, hein, des communes touristiques, que ce soit à la montagne ou sur le littoral, c'est vraiment garder cet équilibre et garder cette capacité à pouvoir continuer à loger les locaux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Et c'est quoi les outils, alors?
Ça ne passera pas. La solution, elle n'est pas certainement dans la surtaxation des résidences secondaires. Ça ne servira à rien. Les gens paieront le supplément. Ils râleront, mais ils paieront. Donc c'est
alors,
vraiment une solution d'aménagement et d'urbanisme.
Hein, d'aménagement et d'urbanisme. Je disais, il y a d'autres outils, du coup?
Il y a d'autres outils, c'est la capacité à pouvoir construire, peut-être pas directement sur le littoral, là où c'est constructible, à pouvoir construire des logements pour les habitants locaux. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, on voit dans certaines communes, ça se fait. C'est pas toujours d'ailleurs bien accepté parfois par les résidents secondaires eux-mêmes, mais eux aussi, ils doivent être raisonnables et ils doivent bien penser que pour que ça se passe bien lorsqu'ils séjournent dans leur résidence secondaire, il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent donc continuer à travailler, ne serait-ce que pour leur apporter les services qu'ils attendent en matière de commerce, de restauration, d'entretien, etc. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas très simple et qui est une difficulté pour les maires des communes concernées.
Caroline Blondy, vous avez étudié la question des littoraux, notamment alors quand on est un maire du littoral, c'est vrai qu'il y a un dosage à trouver entre transformer sa commune en ville fantôme 9 mois par an et en même temps ne pas faire fuir le tourisme.
Tout à fait, oui. C'est exactement ce que disait mon prédécesseur. Il y a un équilibre qui est très dur à trouver parce qu'il faut effectivement bien avoir en tête que ces résidents secondaires sont tout sauf secondaires souvent dans leur territoire. C'est ce qu'on a pu voir en Charente-Maritime, hein, où on voit effectivement qu'il y a un véritable investissement, notamment dans tout le secteur associatif, d'une part non négligeable de ces résidents secondaires, qui là aussi, hein, l'étude qu'on avait menée montrait que le taux d'occupation peut être extrêmement fort, hein, puisqu'on était à au moins 87 jours en moyenne d'occupation par an par le propriétaire et au moins 25 jours en moyenne prêtés à un tiers. Donc on voit déjà une occupation qui est relativement importante sur l'année. Mais également aussi, pas seulement un investissement donc social sur le territoire, c'est aussi un investissement économique, puisque l'étude qu'on a menée a montré que c'est à peu près 41 euros par jour de présence qui est dépensée sur le territoire. Et surtout, ces résidents secondaires sont souvent des ambassadeurs de la destination touristique, puisqu'effectivement, comme la résidence secondaire est très souvent un lieu de retrouvailles familiales ou amicales, ça draine là aussi des flux touristiques qui vont là aussi consommer de la visite, qui vont être là aussi des acteurs de touristes sur le territoire. Donc c'est trouver cet équilibre entre la présence de cette population qui a un statut hybride entre résident permanent et résident donc secondaire, et puis effectivement trouver une place pour les locaux dans la question, enfin pour l'accessibilité à la propriété ou à la location, ce qui est pas une mince affaire effectivement, surtout dans un contexte qu'il faut quand même rappeler sur le littoral, qui est le contexte de ce que nous géographes on appelle la littoralisation des sociétés, c'est-à-dire cette dynamique, hein, qui fait que le peuplement, la répartition du peuplement dans les territoires se fait de plus en plus sur les littoraux, qui sont de plus en plus attractifs, soit dans un contexte de mondialisation, hein, de développement des échanges à l'échelle mondiale et donc de l'importance des ports et des littoraux comme zone d'interface, et puis le contexte également aussi de développement du tourisme qui montre effectivement cette attractivité pour le territoire. Et je crois qu'en plus les mois que l'on vient de traverser avec la crise sanitaire montrent là aussi cette appétence, hein, des populations, notamment des grandes villes, à venir vers des villes du littoral de taille plus moyenne qui effectivement présente souvent aussi un cadre de vie plus agréable et très attractif. Donc c'est arriver à trouver cet équilibre entre ces différents enjeux, en fait.
Et est-ce qu'il y a une proportion idéale de résidences secondaires qui a été calculée? Est-ce qu'on dit qu'au-delà de, je sais pas, 30 ou 40%, finalement c'est trop?
Alors ça, c'est la question quand on a lancé l'étude qui nous a été posée par tous les maires qui ont participé à l'étude, hein. C'était vraiment l'indicateur qu'ils voulaient qu'on ponde. Mais ça, c'est extrêmement compliqué parce que ça va vraiment dépendre du contexte territorial. La question ne se pose pas du tout avec la même acuité dans une grande ville, dans une ville de 100 000 habitants, d'un million d'habitants, dans un contexte rural. La jeune femme qui intervenait sur la commune du Finistère montre bien qu'on n'a pas du tout les mêmes enjeux territoriaux dans une commune de 500 habitants où tous les ans il faut se battre pour arriver à conserver une classe et puis une ville d'un million d'habitants. Donc il n'y a pas de pourcentage idéal. Miracle. Non, désolée.
Audrey Enoch, c'est vrai que Caroline Blondy le disait, la problématique c'est pas la même chez vous effectivement que sur une petite commune du littoral par exemple.
Alors la situation est différente évidemment dans une grande ville comme Lyon par rapport à une petite commune du littoral. Mais moi je n'opposerai pas les territoires parce qu'en fait dans les deux cas la question c'est vraiment d'aider les locaux à pouvoir se loger décemment, que ce soit les locaux ou ceux qui viennent travailler. Et en effet, sur Lyon, on a une difficulté à loger les métiers tels que les auxiliaires de puériculture, les policiers, les institutrices.
Et donc, ils vont habiter où, ces gens-là,
etc. Et donc, il y a cette problématique-là, et puis il y a celle aussi de faire en sorte que les centres-villes ne deviennent pas des musées où il y a plus de population habitante à l'année qui peut se permettre de...
Donc, ces personnes-là, elles habitent en périphérie, du coup, de Lyon?
Oui, souvent. Donc, elles doivent faire des grands temps de trajet. Évidemment, ça apporte de la pollution, beaucoup de stress, voire les personnes ne postulent plus dans les emplois qui sont au centre-ville. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une politique, en fait, globale, dont l'augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires fait partie, mais c'est un tout petit pion dans le jeu. Par exemple, à Lyon, on plaide également pour inciter les personnes qui ont des logements vacants à les remettre sur le marché avec l'instauration d'une taxe additionnelle sur ces logements vacants pour que l'imposition sur ces logements vacants soit au moins au même niveau que la taxe d'habitation des résidences secondaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans les grandes villes, en tout cas, et c'est peut-être pareil dans le littoral, des personnes qui préfèrent garder leur logement vacant plutôt que de les mettre à la location ou à la vente.
Alors, il y a cet outil de la fiscalité, mais il y a l'outil aussi qu'évoquait Philippe Laurent de l'Association des maires de France, l'outil de la construction de logements sociaux. Or, en fait, le gouvernement et les promoteurs disent sur la construction de logements, ce sont les maires qui bloquent.
Alors sur la ville de Lyon, c'est pas le cas puisqu'on va créer environ 2000 logements par an, 6000 au niveau de la métropole de Lyon, donc on va construire encore du logement social, mais c'est vrai que le besoin est énorme puisqu'on est aujourd'hui en dessous des 25% de logements sociaux qui devraient être en place au niveau de la ville de Lyon et qu'on a
14
demandeurs pour un logement social. Donc on va construire, mais on peut pas construire trop non plus puisque le foncier est de plus en plus rare, aussi en centre-ville, et qu'on peut pas avoir une densité trop importante, sinon... les métiers dont je vous parlais tout à l'heure, les auxiliaires de puériculture ou les policiers, ils resteront pas non plus en ville parce qu'ils auront que des barres d'immeubles et aucun espace de végétalisation ou d'espace public pour leurs enfants et eux. Donc c'est un équilibre très délicat à trouver. Et donc notre point de vue, c'est déjà tous les logements qui sont pas aujourd'hui occupés, autant les optimiser pour des individus ou des familles qui ont besoin d'un logement à l'année.
Philippe Laurent, vous souhaitez intervenir ?
De la construction.
Philippe Laurent souhaitait vous répondre.
Oui, non, je souhaitais simplement conforter ce que disait ma collègue de Lyon à propos des logements vacants. Je trouve que la question des logements vacants devrait être prioritaire par rapport à la question des résidences secondaires. Parce que, par exemple, en petite couronne parisienne, on sait qu'il y a, même en petite couronne parisienne, où il y a vraiment une tension très très forte sur le logement, on sait qu'il y a environ 3 à 5% de logements qui finalement ne sont pas occupés pour différentes raisons. Soit parce qu'ils sont pas tout à fait en état, qu'il faudrait certainement les remettre en état, soit parce qu'ils sont pas accessibles, par exemple des logements qui sont au-dessus de commerces. Soit parce que le propriétaire ne souhaite plus les louer. Et là, je trouve qu'on a des logements qui sont construits, donc ils existent, et ils sont vacants. Et là-dessus, je pense qu'il faudrait que nous réfléchissions à une taxe, enfin la taxe sur les logements vacants qui existe.
Elle
déjà,
existe, oui.
Mais elle existe déjà, mais qu'elle soit beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça me paraît quelque chose qui serait beaucoup plus efficace que la surtaxe des résidences secondaires. Et par ailleurs, s'agissant de la construction, alors les promoteurs, tout ça, oui, bien sûr, ils disent que les maires
et le gouvernement.
Le gouvernement aussi. Enfin, tout ceci quand même. Si les maires parfois sont un peu réticents, c'est parce qu'il y a la pression aussi de la population. C'est que la population souvent ne veut pas qu'on construise. Une fois que la population est quelque part, eh bien les habitants disent mais maintenant on est suffisamment nombreux, on a nos services et tout, on veut pas qu'il y ait de nouveaux habitants.
Et puis il y a la question de garder des espaces verts, comme disait Audrey Enoch, de garder des respirations.
Non, mais il y a pas que des espaces verts. Oui, mais enfin on peut quand même garder des espaces verts tout en construisant, tout en reconstruisant, refaisant de la ville sur la ville. On peut densifier des endroits qui sont déjà construits, et souvent mal construit et souvent dans un état qui est pas extraordinaire. Donc ça, c'est pas le sujet, si vous voulez. On peut parfaitement. Ça, c'est la question. C'est une question d'urbanisme que connaissent tous les maires. On a des solutions pour ça. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que les outils d'intervention sont pas toujours faciles. Que ça prend beaucoup de temps, hein. Reconstruire un quartier sur un autre qui existe déjà, c'est à peu près 20 ans de travail, hein. C'est 20 ans de procédure, c'est 20 ans d'achat de terrain, de rachat de maisons, etc., pour reconstruire un quartier et le densifier tout en le rendant généralement plus agréable avec des commerces, etc. Donc c'est vraiment un travail. Ça, c'est le travail des maires. C'est le travail des maires. Et les maires le font. Alors les promoteurs en veulent toujours davantage, bien sûr, c'est normal, ils vivent de ça. Mais les maires le font, ce sont pas les promoteurs qui font la ville, ce sont les maires et leurs équipes. Ça, je pense que tout le monde en conviendra autour de cette table. Et s'agissant enfin des logements sociaux, beaucoup de maires sont tout à fait d'accord pour continuer à en construire. D'ailleurs, les maires sont globalement, en très large majorité, plutôt favorables aux lois qui obligent à la construction de logements.
Il y a beaucoup de villes qui n'atteignent pas les quotas aussi, hein.
Oui, il y a les quotas, oui, bien sûr, il y a 25% de la loi SRU, mais bon, là-dessus, ces quotas ne sont pas contestés. Simplement, il faut voir qu'aujourd'hui, un maire qui construit des logements sociaux, à partir du moment où il ne perçoit plus la taxe d'habitation et où ses logements sont exonérés de taxes foncières, il n'y a plus de recettes pour la commune. Donc, accueillir des nouvelles populations sans avoir les moyens de leur proposer les services publics, les écoles, les crèches, etc., enfin, tout ce qui va avec l'accueil de nouvelles populations, c'est un peu compliqué. Donc, quand on disait tout à l'heure qu'il fallait avoir une politique globale, oui, vous voyez, elle est encore plus globale que ça. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet, en réalité, d'aménagement du territoire global, sur lequel, eh bien, le gouvernement n'est pas non plus très clair. Hein. Il a l'air de considérer, de prendre des mesures au cas par cas et de penser que ça fait une politique. Non, ça ne fait pas une politique. Hein. Il faut aller beaucoup plus loin.
Gilles a appelé France Inter. Gilles nous appelle de Rouen. Bonsoir, Gilles.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci.
Alors, votre question, votre témoignage plutôt.
Alors, ma question, elle est très simple. C'est pourquoi, à partir du moment où on a deux maisons, considère-t-on que cette deuxième maison est une résidence secondaire ? Il y a un usage dont vous n'avez pas du tout parlé, des soi-disant résidences secondaires, qui est l'usage professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de couples et de familles qui travaillent à deux endroits différents. Moi, je suis enseignant dans le supérieur, ma femme travaille sur Paris, j'enseigne dans le sud de la France, à 800 km de chez moi. Mon employeur ne me défraie pas de mon hébergement et de ma restauration, donc il y a quelques années, j'ai investi dans un petit pied-à-terre de moins de 50 mètres carrés, dans lequel je devrais aujourd'hui payer pas ou peu de taxes d'habitation, et je me retrouve surtaxé comme un touriste américain à plus de 700 euros de taxes d'habitation par an sur mon propre lieu de travail.
C'est une surtaxe à combien de pourcents, du coup ?
En lui disant, mais écoutez, je travaille ici, je passe plus de 100 jours à travailler dans ce logement et autour, et on me dit, mais votre statut n'existe pas. Donc ma question, elle est pour le président de l'Association des maires de France.
C'est une surtaxe à combien de pourcents, du coup, Gilles ? C'est le maximum, c'est 60% ?
La surtaxe, je ne la connais pas, mais compte tenu du niveau de mes revenus et compte tenu de la baisse qui avait été promise de la taxe d'habitation, je devrais payer très peu de taxes d'habitation. Or, je paye des centaines d'euros de taxes d'habitation qui viennent en déduction de mes salaires.
Alors, sur la question de l'usage qui est fait effectivement de cette deuxième maison, qui n'est pas forcément une résidence secondaire, j'ai aussi par internet la question de Catherine qui a écrit à France Inter, ayant été victime de violences conjugales dans le passé, je me garde un autre appartement au cas où. Voilà, mais je propose qu'on revoie les lois, car avec les divorces, remariages, les données ont un peu changé. Donc peut-être qu'elle a un deuxième appartement qui est considéré comme résidence secondaire, alors que c'est plutôt un refuge éventuel. On va commencer par Audrey Hénoc avant de poser la question à Philippe Laurent à l'AMF. Audrey Hénoc, vous faites bien la différence entre un pied-à-terre, un refuge pour une femme victime de violence et une résidence secondaire. Comment on fait pour faire ça ?
La loi a prévu un certain nombre d'exonérations de taxes d'habitation pour la résidence secondaire et je pense que monsieur rentre dans ce cas-là, bien que je ne connaisse pas son statut professionnel, mais normalement les personnes qui sont obligées de résider dans un lieu différent que leur résidence principale pour raison professionnelle sont exonérées.
Alors lui ne dit pas du tout, hein. il est encore en régie et il ne dit pas du tout.
C'est pas énorme, mais c'est 137 exonérations sur 16 000 résidences secondaires.
Alors lui dit que ça ne le concerne pas, ces exonérations.
Oui, alors c'est bon, c'est assez étonnant parce que normalement, quand on vient travailler sur un lieu où on a besoin donc d'avoir un pied-à-terre, ça devrait rentrer dedans, tout comme les personnes qui sont hébergées en établissement de santé. Par exemple, une personne qui va être en EHPAD pour une personne âgée, en maison de retraite, évidemment, sa maison qu'elle aura gardée ne sera pas considérée en résidence secondaire.
Philippe Laurent de l'Association des maires de France. Effectivement, est-ce qu'il ne faut pas inventer, alors je ne sais pas si c'est des exonérations ou un nouveau système avec aussi le développement du télétravail où les gens vont avoir de plus en plus peut-être deux résidences principales par exemple?
Oui, alors d'abord il faut distinguer parce que bon, je ne suis pas certain que ces exonérations dont parlait ma collègue il y a un instant fonctionnent lorsqu'on est propriétaire des deux logements. Enfin bon, je sais pas, mais en tout cas ces exonérations, elles sont très peu fréquentes, hein. C'est vrai que il y a là certainement un trou dans les textes. Ça dépend pas des maires, hein, ça dépend du Parlement, enfin ça dépend de la loi, du gouvernement et du Parlement. Et probablement faudrait-il en effet, et justement l'exemple du télétravail est intéressant de ce point de vue-là, il faudrait probablement revoir les choses et avoir une étude, une enquête approfondie sur le sujet. Pour voir et pour créer, si vous voulez, une forme d'équité dans tout ça, parce que ce que disait votre interlocuteur que nous entendions tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas très équitable dans la mesure où il forme un foyer fiscal, mais il est obligé pour des raisons professionnelles de résider au moins une partie de la semaine à un autre endroit que son conjoint. Donc ça c'est vraiment un vrai sujet. Encore une fois, sur ces sujets-là, les maires n'ont pas la main parce que les textes sont extrêmement rigides, ils sont faits pour tout le monde, ils ne permettent pas la distinction. Je pense que là aussi, une plus grande décentralisation de ce type de décision pourrait tout à fait être envisageable. Mais ça, c'est une question de culture nationale. On n'aime pas trop ça. On n'aime pas que les choses se passent de manière un peu différente à Lyon, à Marseille, à Paris ou sur le littoral breton. Ça fait pas partie de la culture française. C'est d'ailleurs quelque chose qui devrait probablement changer dans l'avenir. Mais en tout cas, c'est sûr que les textes tels qu'ils sont aujourd'hui sont clairs, hein. Vous ne pouvez avoir qu'une seule résidence principale, et c'est là où, en théorie, vous habitez plus de 6 mois de l'année. C'est là où vous déclarez vos impôts, etc. Vous pouvez changer, hein. Votre résidence secondaire peut devenir résidence principale. Mais à ce moment-là, il faut que ça s'accompagne d'une présence de plus de 6 mois par an. Et je peux vous dire qu'il y a des contrôles, notamment en matière de consommation d'électricité ou de choses comme ça. C'est-à-dire que si vous déclarez que votre résidence principale est là où vous n'habitez pas plus de 6 mois par an, s'il y a un contrôle et si vous êtes redressé, ben vous paierez non seulement les impôts que vous n'avez pas payés, mais vous paierez des pénalités.
Caroline Blondy, vous, la géographe, vous voyez qu'effectivement, avec notamment le développement du télétravail et peut-être aussi les séparations, les familles recomposées, etc., il y a de plus en plus de doubles résidences principales et qui sont plus vraiment des résidences secondaires, du coup.
Oui, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est une dynamique qu'on observe maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Un certain nombre, hein, de chercheurs, hein, ont travaillé sur ces questions, notamment Mathis Stock, hein, qui parle effectivement de ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, un mode d'habiter polytopique, c'est-à-dire entre plusieurs lieux. C'est quelque chose néanmoins qu'il faut aussi modérer, parce que ça touche quand même des catégories souvent sociales plutôt élevées, ou alors avec des c'est pas toujours le cas, mais c'est plutôt quand même avec des profils de soit de cadres supérieurs ou autres. Et effectivement, ces questions vont se poser par rapport à tout ce qui touche à la fiscalité. Je voulais juste faire une petite précision aussi par rapport à ce qui a été dit sur les logements vacants, parce qu'en fait, quand on regarde la dernière étude de l'INSEE de 2019 sur justement le logement, effectivement, alors que depuis 35 ans finalement, il y a une sorte de stagnation dans la part des résidences secondaires dans le volume des logements en France, c'est les logements vacants qui progressent le plus, hein. Donc effectivement, cette question, elle est extrêmement sensible et à prendre en considération.
Nous avons Benoît qui nous appelle de Rouen, au standard de France Inter. Bonsoir Benoît.
Oui, bonsoir.
C'est à vous.
Ouais, merci. Je pense que il y a eu beaucoup de réponses qui ont déjà été apportées. Ma question, c'était par rapport à l'impact du Covid, effectivement, par rapport à ces transitions qui a pu apparaître. peut-être effectivement sur des catégories socio-professionnelles peut-être un peu aisées, où la résidence secondaire est devenue une résidence principale, quitte ce que j'ai fait, j'ai rendu mon appartement à Paris, hein, et je me suis installé à Rouen, justement. Et donc, je voulais avoir l'avis des intervenants sur justement ces transformations que le Covid va avoir à moyen ou long terme, parce que va y avoir de plus en plus de télétravail, puisqu'on est très en retard en France et qu'on va peut-être rattraper ça. Donc, avoir un peu leur opinion là-dessus, justement, sur le foncier, comment il va se transformer par rapport à ça, même des bureaux d'une agence chez qui je travaille, qui ont été rendus sur un boulevard très très prestigieux de Paris. Et donc, du coup, quelle est leur opinion sur ces transformations-là que le Covid va avoir?
Alors, Audrey Henoch, à Lyon, peut-être vous avez un exemple ou des exemples de personnes qui, finalement, se sont installées peut-être en télétravail chez vous et puis ont fait de Lyon leur résidence principale au lieu de leur résidence secondaire. Est-ce que ça se calcule, ça se mesure?
Ce qu'on constate sur Lyon, c'est que, en effet, avec le développement du télétravail, les personnes ont besoin d'être bien installées chez elles de manière décente et confortable. Mais je pense qu'il y a peu de chances d'avoir la possibilité de s'installer dans une maison secondaire. Par contre, on constate que le prix d'achat au mètre carré, même dans une ville urbaine comme Lyon, a énormément augmenté, puisqu'on dépasse maintenant les 6 000 euros du mètre carré et à 10 000 euros dans certains quartiers, rapprochant de Paris. C'est pourquoi moi je voulais réagir à ce que disait tout à l'heure Philippe Laurent. Je pense en effet que les maires, les communes n'ont pas assez d'autonomie fiscale pour prendre toutes les mesures qu'elles doivent prendre pour faciliter le logement principal en premier, même si les maires essaient de faire un maximum avec ce qui leur est permis de faire. C'est pour ça qu'en même temps que cette augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires à Lyon, on a aussi pris d'autres dispositifs pour encourager notamment le bail réel solidaire, mais pas que. Mais par contre, là où je m'oppose, c'est... On ne peut pas indiquer qu'il est facile de construire la ville sur la ville et de continuer à densifier la ville, notamment parce que qui dit logement supplémentaire dit aussi des besoins de services publics supplémentaires pour les habitants, des écoles, des crèches, des équipements sportifs, etc. etc. Et donc on doit penser une urbanisation et des constructions de logements qui sont vraiment équilibrées. Qu'on fasse du télétravail ou qu'on se déplace pour aller au travail.
Arnaud a appelé France Inter de Toulouse. Bonsoir Arnaud.
Oui, bonsoir.
Désolé de vous avoir fait attendre votre question à France Inter.
Il n'y a pas de mal. C'est entre la question et le témoignage. Quid des travailleurs saisonniers? Parce que dans tout ça, faut pas oublier ce problème-là.
Ça vous concerne directement ?
Ça m'a concerné. Je ne suis plus concerné. Mais quand j'ai fait les saisons, déjà c'était très difficile de trouver un logement abordable. Et maintenant, entre les personnes qui gardent leur logement en tant que résidence secondaire, ou sinon les font passer sur Airbnb pour les ou autres plateformes, et pour un travailleur saisonnier ou une travailleuse saisonnière, c'est impossible de se loger. Vous pouvez pas vous loger alors que la moindre location va être à plus de 400 euros la semaine.
La réponse peut-être du côté de Philippe Laurent qui est à l'Association des maires de France.
Écoutez, je n'ai pas vraiment de réponse à cette difficulté-là. Je n'ai pas de réponse parce que en réalité. Tout dépend, enfin, les réponses peuvent être multiples et tout ça doit être pris en compte dans une politique globale.
Mais à l'Association des maires de France, c'est un problème qui a été identifié dans certaines communes?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ça a été identifié dans les communes touristiques, notamment, cette question du travail saisonnier, de l'hébergement. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées, qui généralement sont des solutions locales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système national pour régler ça. Il peut y avoir des solutions trouvées avec les employeurs, avec bon voilà, ce sont des choses comme ça. Mais c'est vrai que tout ceci ne peut être réglé que sur le plan, que sur un plan local. Voilà, c'est la seule réponse que je puisse donner. On a un système fiscal qui est très centralisé et qui ne fait pas de distinction entre la multiplicité des cas qu'on peut rencontrer, des situations qu'on peut trouver, de salariés, télétravailleurs, enfin tout ce qu'on veut. La seule solution, c'est de de faire confiance, notamment vis-à-vis des responsables locaux et des élus locaux, pour trouver des solutions qui soient fiscalement acceptables et qui soient adaptées aux circonstances locales. Donc c'est une question de confiance. Notre pays ne fait pas vraiment confiance aux acteurs locaux, donc on passe simplement par des textes qui sont généraux et qui sont valables partout, dans ville, en commune touristique, en zone rurale, etc., alors que les situations ne sont pas les mêmes.
Audrey Henoch, à Lyon, vous avez des éléments de réponse pour Arnaud ?
Oui, enfin juste un mot en plus de ce que disait Philippe Laurent, la mise en place de dispositifs spécifiques pour accueillir les saisonniers. Mais il y a tout simplement la question de réguler le prix des loyers. Donc à Lyon, avec la métropole, on a mis en place l'encadrement des loyers pour éviter justement que les prix s'envolent et que, comme je disais tout à l'heure, les gens qui viennent travailler avec des revenus modestes ou moyens puissent financer un logement, payer un loyer de manière acceptable.
Caroline Blondy, je suis désolée, je reviens avec mes questions de pourcentage parce qu'on en a beaucoup qui nous arrivent par mail sur France Inter. Il y a Anne qui nous demande, que pensez-vous d'un quota de résidence principale afin de privilégier les gens qui travaillent et éviter les villages avec 80% de résidence secondaire? Et il y a Francis qui nous dit, en Suisse, la loi Weber interdit aux communes d'avoir plus de 20% de résidence secondaire. Alors est-ce que c'est des bonnes idées ça?
Écoutez, la question, elle se pose. Hein. Effectivement, on est particulièrement concernés, nous, en Charente-Maritime, puisque sur l'île de Ré, on a des communes hein, où, effectivement, le parc locatif est pour 80% correspond à des résidences secondaires. Cette question, bah, là encore, elle revient... Enfin, je crois que c'est ce que disaient les deux autres intervenants. Il y a besoin d'une réglementation. Mmh. Et une réglementation qui prend en compte les spécificités territoriales, puisqu'effectivement, les choses se posent pas tout à fait de la même façon dans une commune touristique du littoral ou de montagne ou une ville de 100 000 habitants ou une ville d'un million d'habitants. Mais effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas une solution? Je n'ai pas de boule de cristal pour vous répondre.
On va rester sur ces interrogations parce que l'émission touche à sa fin. Je vous remercie tous les trois de nous avoir répondu sur France Inter. Merci à France Bleu La Rochelle qui a assuré la liaison avec Caroline Blondy. Merci à Adèle Domas, Pierre de Certaine et Zoé Fauché qui ont préparé cette émission et à la technique. Merci à Ludovic Asselot et Henri Bérec. Dans un instant, sur France Inter, Affaires sensibles de Fabrice Drouel. Mais tout de suite, il est 20h.